Ces enregistrements ont été réalisés lors du séminaire Évangile 21 intitulé « La parole et les actes, la vie du disciple à la lumière de la croix » qui s'est tenu à l'Institut biblique de Genève au mois de mai 2016. Les droits appartiennent à Évangile 21.
Comme l'a dit Naina, c'est un sujet un petit peu tendu qui peut provoquer pas mal de discussions, de débats. Mon but cet après-midi, c'est pas de raviver ce débat, c'est simplement d'essayer ensemble de se plier quelque part et aussi de se laisser inspirer par ce que l'Écriture nous dit par rapport à ces sujets qui sont donc sensibles. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais juste faire 5 petites remarques. En guise d'introduction. Premièrement, sachez que ceci n'est pas mon domaine de prédilection. Je ne suis pas le détenteur d'une thèse en liturgie. Je ne viens pas du tout en expert pour vous faire des leçons. Pour tout vous dire, il y a beaucoup d'autres sujets qui me passionnent bien davantage. Cependant, si je fais cet atelier, et si j'ai écrit aussi un petit article sur Évangile 21 sur le sujet, c'est simplement parce que, comme vous, j'imagine, j'ai dû, par nécessité, j'ai été obligé de me pencher sur ce sujet, de me poser un certain nombre de questions. Parce que peut-être comme vous, j'ai fait cette expérience qui consiste à voir les dimanches défiler et les dimanches qui se suivent et qui se ressemblent, mais en même temps qui ne ressemblent pas toujours à ce que moi j'ai compris de l'Évangile et de l'Écriture. Deuxièmement, si ça vous arrive un jour de passer à l'église Saint-Cyprien, je vois quelques responsables là-bas au fond, ne soyez pas surpris si vous n'avez pas l'impression d'être arrivé en terre promise liturgique. Je ne suis pas là non plus parce que notre église serait, pas à ma connaissance en tout cas, une référence mondiale en matière de louanges et de culte. J'espère qu'on progresse, j'espère qu'on a un minimum de réflexion là-dessus. Mais rassurez-vous, ça m'arrive aussi, comme vous en tant que responsable d'église, de temps en temps un petit peu serrer les dents, grincer les dents au cours de tel chant ou telle intervention. Troisième point. Ah, c'est un téléphone. D'accord. Si vous pouvez éteindre vos téléphones, ça peut nous rendre tout service. Je ne suis pas là non plus pour militer pour un style liturgique ou musical précis. Il se trouve que j'ai vendu mon âme au CEF, qui sont actuellement mon employeur, mais j'ai eu le privilège de vivre dans plusieurs pays différents où j'ai participé à, je pense, pas à tout, mais en tout cas une gamme assez large qui allait de ce qu'on appelle l'anglo-catholicisme, l'aile de l'église anglicane qui est presque catholique, allant jusqu'au mouvement charismatique latino dans le sud de l'Espagne. Donc, j'ai vu quand même pas mal de choses, et je ne parle pas juste de visites ponctuelles, je parle vraiment de participation dans la durée dans ce type d'église. Et je connais des églises en matière de musique qui font d'excellents cultes autour de la musique rock et aussi autour de la musique classique. Donc, ce n'est pas la forme qui m'intéresse, ce n'est pas la dénomination ou l'ecclésiologie qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, ce pourquoi je milite, c'est plutôt pour que nous ayons une réflexion biblique et théologique sérieuse sur laquelle nos choix concrets de musique, de chant, de déroulement de réunion vont être basés. Et bien sûr, au passage, ce sont souvent ceux qui rejettent la liturgie, qui disent « Ah, surtout pas, on est en réaction contre la liturgie », qui ont parfois la liturgie la plus fixe, la plus rigide et parfois même la moins riche. Je vous donne deux exemples, deux extrêmes. Vous avez les églises de frères étroits, vous avez les églises charismatiques. Ce sont deux exemples de milieux où historiquement on a rejeté, on a réagi contre une forme de liturgie fixe, imposée, pour aller dans deux directions très très différentes. Et pourtant, très souvent, quand vous allez dans ce type d'église, vous allez constater que de dimanche en dimanche, ça se ressemble à quelques détails près. Donc il ne faut pas qu'on se voie la face. On a tous une liturgie. Qu'on le veuille ou pas, on a tous une liturgie. Donc autant faire en sorte qu'elle soit riche, qu'elle soit intentionnelle, qu'elle reflète fidèlement l'Écriture et l'Évangile, plutôt que de faire quelque chose qui est plutôt le prisonnier de nos habitudes, nos traditions, nos envies, nos besoins, de notre culture. Essayons de faire quelque chose de riche et d'intentionnel plutôt que quelque chose de chaotique dans la forme et peut-être même d'erroné théologiquement sur le fond. 4. Mon but ici n'est pas de vous décourager. Je suis bien conscient que nos moyens en France sont limités. Le vivier de chants à notre disposition laisse parfois à désirer. On manque de temps, on manque d'argent, on manque de talent. Je rêve en tant que responsable d'église, je rêve du jour où on aura des musiciens de niveau professionnel et qui travaillent pour des églises et qui en même temps sont théologiquement, bibliquement affûtés. Malheureusement, ce jour n'est pas encore arrivé. Naïna y travaille, mais il me dit qu'il faudra encore 5 ou 10 ans. 5. Tout cela étant dit, à un moment donné, il faut arrêter de pleurer. Et je peux vous dire que j'ai pleuré. À un moment donné, il faut retrousser les manches. Il faut regarder la réalité en face. Il faut commencer quelque part avec les faibles moyens du bord et à genoux, en priant pour que Dieu multiplie et pour qu'il bénisse. Pourquoi ? D'abord, évidemment, pour la gloire de Dieu. Ça, c'est notre motivation première. Mais ensuite aussi parce qu'il y a un énorme enjeu humain. On dit, j'espère que votre vie d'église ne se résume pas au dimanche matin. On dit souvent à Saint-Cyprien, l'église où je sers, que l'église, ce n'est pas le dimanche. Ou qu'on ne va pas à l'église, on est l'église. Mais même quand on tient compte de toutes ces considérations-là, on reconnaît que le dimanche ne fait pas tout, mais on ne peut pas passer à côté du fait que le dimanche, il est important, il y a un enjeu. Il y a un enjeu pour l'édification, pour la formation spirituelle de nos membres, en premier lieu. Ensuite, il y a un enjeu en ce qui concerne ce que j'appelle les électrons libres, les personnes qui ne sont peut-être pas membres, qui ne sont pas engagées, mais qui tournent, qui papillonnent autour de l'Église, qui sont là de temps en temps, qui se posent des questions, qui sont en recherche, pour qui la seule nourriture spirituelle de la semaine, ce sera peut-être ce qu'ils reçoivent pendant 90 minutes ou 2 heures avec vous le dimanche matin. Si ce qu'ils voient là est pauvre, si ce qu'ils voient là n'est pas fidèle et ne donne pas envie d'aller plus loin, il y a peu de chances que ces gens-là s'engagent dans un vrai discipulat, dans un vrai cheminement spirituel, dans la formation et dans le service. Et puis troisièmement, il y a un enjeu en ce qui concerne les non-croyants. Et autant j'espère que le nombre d'électrons libres qui sont présents dimanche matin est relativement faible, est une minorité, autant j'espère aussi que le nombre de non-croyants représente peut-être encore une minorité, mais une minorité grandissante, une minorité à laquelle on pense, une minorité qu'on a à cœur de servir et d'attirer, même à travers nos dimanches matins. Si ces gens-là viennent et leur conclusion, c'est qu'en gros, ça, c'est aussi incompréhensible qu'une messe en latin, ou encore que c'est juste une réunion de famille élargie, dont ils se sont complètement exclus, c'est clair qu'on ne va pas aller très loin en matière d'évangélisation. Ça, c'était l'introduction. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet. J'aimerais dire 3 choses. Premièrement, j'aimerais qu'on parle un petit peu, et là, il va falloir quand même un petit peu attacher les ceintures, comme l'a dit M. Blocher ce matin, un petit survol de ce que la Bible dit sur le culte. Ensuite, quelques réflexions, 2 textes en particulier sur ce que la Bible dit par rapport au dimanche matin ou par rapport au rassemblement public de l'Église. Et pour finir, quelques réflexions pratiques pour aider à agir à la lumière de tout ça. Premièrement, donc, la Bible et le culte. Curieusement, et c'est très curieux quand on fait ce constat pour la première fois, mais figurez-vous que jamais, et là je vous lance le défi de me contredire, vous avez encore 30 minutes pour y réfléchir, jamais, à ma connaissance, le Nouveau Testament qualifie le rassemblement public des croyants de culte. Et encore moins la musique ou le chant. Et pourtant, le Nouveau Testament est loin d'être muet sur le sujet du culte. En fait, tout ce qu'elle, la Bible dit plein de choses sur le culte. Et tout part en fait du culte lévitique, du sacerdoce lévitique. À chaque fois que la Bible nous parle du culte, et notamment dans le Nouveau Testament, c'est toujours un renvoi à l'univers de l'Ancien Testament, à l'univers du tabernacle, du temple, du sacerdoce lévitique, des sacrifices et tout ce qui nous est raconté, notamment dans le Pentateuque. Et en fait, on pourrait même aller jusqu'à dire que c'est le seul culte que la Bible connaît et reconnaît. L'État français ne reconnaît ni ne subventionne aucun culte. Le Nouveau Testament ne reconnaît que le culte lévitique. Et cela n'a rien à voir avec ce que nous appelons culte en français, et notamment dans nos milieux évangéliques. En fait, si on s'en tient strictement aux données linguistiques, en fait, on pourrait aller jusqu'à dire que le fonctionnaire athée qui travaille pour le fisc peut davantage prétendre à une fonction cultuelle dans l'économie du Nouveau Testament que la guitariste du dimanche ou le prédicateur. Le mot que Romains 13 utilise pour décrire cette fonction, le magistrat qui s'occupe des impôts, c'est le mot léturgos, le mot qui désigne entre autres les lévites dans l'Ancien Testament. Ce langage est aussi employé pour parler du ministère apostolique et en particulier le ministère de Paul. Par exemple, en Romains 15, en Actes 13, lorsqu'ils sont envoyés pour la première fois à Timothée 1, c'est le même vocabulaire. Mais tout ça, ça reste quand même minoritaire. Donc, le plus souvent, quand le Nouveau Testament parle de culte, il parle en fait de Jésus. Il parle de Jésus et en particulier, il parle de la croix et de la résurrection, de ce que nous appelons l'Évangile. L'exemple par excellence de cela, c'est bien sûr l'Épître aux Hébreux. L'Épître aux Hébreux qui a pour proposition centrale, pour objet de montrer aux Juifs qui sont tentés de revenir sous l'Ancienne Alliance, sous le culte juif à l'ancienne, de dire à ces gens-là, mais non, ce culte, il est caduque. Il n'a plus lieu d'être, il a été pleinement accompli, il a été aboli, il a été annulé grâce à Christ qui est devenu, chapitre 7, le grand prêtre, l'intermédiaire, qui est devenu, chapitre 8, le sacrifice qui s'est offert lui-même et qui est même, d'après les chapitres 8 et 9 d'Hébreux, le sanctuaire. 1 Corinthiens 5 et Jean chapitre 1 nous parlent de Jésus comme l'agneau pascal. L'agneau pascal, vous vous souvenez, Jean-Baptiste, qui ôte le péché du monde. La croix, Jean 19 et entre autres, nous renvoie à cette image-là de culte. Jean chapitre 2, Jésus parle du temple de son corps. Détruisez ce temple et moi, je le relèverai en 3 jours. Il parlait du temple de son corps. Son corps, la croix, qui devient le lieu de la rencontre suprême, le lieu de rencontre universelle pour tous les hommes, entre Dieu et l'humanité, là où le culte est accompli. Maintenant, s'agissant du croyant lambda, si on veut un texte qui parle explicitement du culte, qui évoque fortement ce langage-là, cet univers-là, et qui nous montre aussi le rapport entre l'Évangile et le culte aujourd'hui pour nous, on ne peut pas faire mieux que Romains chapitre 12. Et je vous invite à le chercher dans vos Bibles. Romains chapitre 12. Et ici, on en vient à la grande charnière de cet épître aux Romains. Vous savez peut-être que Romains, c'est l'exposé par excellence de l'évangile paulinien. Il passe 11 chapitres à part les deux, de comment Dieu révèle sa personne, sa justice à l'ensemble de l'humanité, comment ensuite cette œuvre de Dieu, l'évangile, est appliquée à l'individu dans les chapitres 5 à 8. Et puis, il montre aussi la justice de Dieu, son action à travers l'évangile dans l'histoire, dans les chapitres 9 et 11. Et puis, à la fin de tout ce discours, de tout cet enseignement qui est tout simplement extraordinaire, il en vient aux implications pratiques. Voilà ce que Dieu a fait pour nous en Christ. Maintenant, quelle sera notre réponse ? Quelle sera notre réponse ? Et c'est la question de Romains 12 à 15, dans la pratique, dans la vie quotidienne. Réponse ? Le culte. Regardez, Romains 12, versets 1 et 2, « Je vous encourage donc, par les compassions de Dieu, par la grâce de Dieu, par tout ce que je viens de vous expliquer depuis 11 chapitres, quelle sera votre réponse, quelle sera votre réaction ? Bah, frères et sœurs, je vous exhorte par les compassions de Dieu à faire quoi ? À offrir. On est au tabernacle, on est au temple, on est devant l'autel. À offrir votre corps. Quoi ? Ouais, ce sont les agneaux, ce sont les brebis, ce sont les âmes, c'est pas moi. Si. Offrir votre corps comme un sacrifice vivant. Vous voyez le paradoxe ? Un sacrifice vivant, et ça continue, saint, mis à part encore l'univers Lévitique, du culte lévitique, agréable à Dieu, pour plaire à Dieu, ce sera de votre part un culte raisonnable. Ça n'a rien à voir avec le chant, rien à voir avec ce qu'on fait le dimanche matin lors de nos rassemblements publics dominicaux. Jamais ce vocabulaire-là n'est employé pour parler de la musique ou pour parler de la rencontre des chrétiens. Le seul culte auquel nous sommes appelés par le Nouveau Testament, c'est le culte qui consiste en ce don total, ce sacrifice sans réserve, sans condition de l'ensemble de notre être, de notre existence, de ce que nous sommes en sacrifice pour Dieu, pour son usage exclusif et dans le but de lui plaire. Et nous pouvons rendre ce culte-là sous la nouvelle alliance. Pourquoi ? Parce que Christ, Romains 1 à 11, Hébreux 1 à 10, parce que Christ a accompli pleinement, parfaitement, de manière entièrement suffisante, le culte sous la première alliance. Le culte néo-testamentaire sous la nouvelle alliance, c'est notre vie transformée. Il y a beaucoup d'autres textes qu'on pourrait regarder, mais on va s'en tenir là. Donc vous voyez, quand on lit la Bible, on se rend compte que notre vocabulaire cultuel en français nous dessert en fait terriblement. Au fil des siècles, notre imprécision linguistique en matière de culte nous entraîne vers une erreur théologique qui nous renvoie malheureusement sous l'ancienne alliance. Et la preuve, c'est que même les textes que beaucoup de gens, certainement bien intentionnés, invoquent en matière de louange et de culte le dimanche. Même les textes qu'on cite souvent pour nous inciter à chanter plus fort, avec plus de sincérité, même ces textes-là, quand on les lit dans leur contexte, nous renvoient à ce même message, le message de la suffisance et la centralité du culte de Christ et de notre culte, du don de notre vie en retour. Je vous donne deux exemples classiques. Hébreux 13. Regardez avec moi, Hébreux chapitre 13, verset 15. Écoutez-moi ça. Par Christ, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange. Et là, ça monte, il y a la fumée, il y a la lumière, les guitares. Sacrifice de louange sous la nouvelle alliance, c'est ça ? Et on est d'accord, on est dans l'univers de ce langage cultuel de l'ancienne alliance. Mais pas si vite. Pas si vite, parce que en quoi consiste ce sacrifice ? Parce que l'auteur, il prend la peine de nous le préciser. Offrant donc sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui reconnaissent publiquement lui appartenir. Et verset 16, n'oubliez pas de faire le bien, de vous entraider, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Et puis mettons tout cela à la lumière de l'ensemble de l'Épître aux Hébreux. Quel est l'enjeu de l'Épître aux Hébreux ? Je vous assure, ce n'est pas la composition de l'équipe de musique pour le dimanche matin ou ce qu'on va chanter ou faire entre 10h30 et midi le dimanche. Non, l'enjeu de l'Épître aux Hébreux, c'est le défi de ces Juifs qui se sont convertis et qui subissent une terrible pression de la part de leurs proches sceptiques, de la part d'une culture qui est pleine de mépris pour leur appartenance à Christ, et qui leur dit, c'est léger, c'est nouveau, c'est une petite secte. Qu'est-ce que vous voulez traîner avec ces gens-là ? Revenez avec nous, ça c'est du vrai, regardez le temple, regardez les sacrifices, ça c'est une vraie religion. Et donc l'auteur de l'Épître aux Hébreux, il passe 10 chapitres à leur expliquer ce culte-là. Caduque, accompli, fini, annulé, grâce à la croix. Et désormais, le culte que nous avons à offrir, c'est notre vie. C'est le fait d'assumer publiquement notre appartenance à Christ. C'est de vivre cette vie transformée, d'offrir notre vie, notre être comme sacrifice, de s'entraider, de faire le bien. Ce sont les sacrifices sous la nouvelle alliance. C'est le même message que Romains 12. Jean 4. Jean 4, très connu, et parfois j'ai l'impression peu compris. Jean 4, versets 23 à 24. Vous connaissez ces paroles ? Jésus s'entretient avec la femme samaritaine. Et verset 23, il lui dit : « Mais l'heure vient, elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En effet, ce sont là les adorateurs que recherche le Père. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. » Ça veut dire quoi, ça ? Quelqu'un peut l'expliquer ? Adorer en esprit et en vérité ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut fermer les yeux et serrer les fesses, faire le plein de sincérité. Mais c'est souvent comme ça que c'est présenté. Ou est-ce que ça veut dire encore qu'on va faire une expérience spirituelle ? Vous voyez, il y a l'adoration charnelle, puis il y a l'adoration spirituelle. Vous voyez, on va faire cette expérience mystique, on va transcender les limites de notre chair pour entrer dans une communion mystique avec Dieu. Regardez le contexte. Et encore une fois, il n'y a pas l'ombre d'une guitare. On est dans un débat qui est tout autre. On est dans un débat autour du culte, autour des lieux saints. Vous voyez, il y a la femme samaritaine qui pose une petite colle à Jésus, après qu'il ait dévoilé un petit peu sa vie intime, elle a essayé de changer le sujet. Ah, je vois que tu es un prophète, verset 20. 19, je crois, 19. Je vois que tu es un prophète. J'ai une question pour toi. Ça fait longtemps que j'attends de discuter avec un mec comme toi, un mec qui s'y connaît en religion. Regarde, il y a cette montagne-là, chez nous, Samarie, mont Gérazim, puis il y a l'autre, à Jérusalem, là où vont les cousins. Et le problème, c'est ça, c'est le pluralisme, on ne sait pas trop. Hein. Il y a un temple là, un autre temple là. Voilà, qui a raison ? Où c'est qu'il faut aller pour vraiment adorer Dieu ? C'est où l'endroit où on va sentir vraiment une connexion à haut débit avec Dieu ? Réponse de Jésus, mais l'heure vient où tout ça sera fini. C'est fini, c'est de l'histoire ancienne. Cette histoire de culte, cette histoire d'un besoin d'être dans un lieu précis avec des gens qui sont capables de nous conduire dans la présence de Dieu par le sang, par l'encens, par les guitares, c'est fini. Pourquoi ? Verset 23, regardez, à cause de l'heure. À cause de l'heure du Seigneur Jésus. C'est quoi l'heure en Jean ? L'heure vient. Chapitre 13, Jésus, sachant que son heure était venue, c'est la croix. C'est le moment où Jésus va devenir notre intermédiaire. Le moment où Jésus devient le temple, le lieu de la rencontre entre Dieu et les hommes, où il devient lui-même l'intermédiaire, le prêtre. Et ce qu'il est en train de nous dire ici, c'est que justement grâce à cette heure, grâce à l'heure de la croix et l'œuvre de l'Esprit qui en découle, on est d'accord, désormais tout le monde, grâce à cela, tout le monde peut s'approcher de Dieu. Il n'y a plus de lieu saint, il n'y a plus de temple, mais c'est ouvert à tout le monde, à tous les pays, tous les peuples, que l'on soit juif, qu'on soit samaritain, peu importe. Parce que l'heure vient, on va tous pouvoir s'approcher de Dieu grâce à son esprit et vraiment, réellement, pour avoir une intimité qui n'était jamais imaginable sous l'ancienne alliance. Donc on voit que toutes les données du Nouveau Testament, à propos du culte, à propos du sacrifice, à propos de l'adoration, la louange et compagnie, nous conduisent ensemble, non pas vers une rencontre, un rassemblement de chrétiens, mais à la croix et à la personne de Christ. Et puis une fois qu'on a compris ça, on réalise, comme le dit Paul en Romains 12, qu'il n'y a qu'une seule réponse raisonnable, une seule réponse adaptée, une seule réponse à la hauteur. Et c'est la réponse qui consiste à se sacrifier soi-même, à se donner sans réserve, sans condition pour le service de Dieu et pour mener à fond cette vie transformée qui est désormais possible grâce à la croix. Le culte, le sacrifice, l'adoration conçue comme un acte ou un service religieux ponctuel, liturgique pour nous rapprocher de Dieu, c'est fini. C'est caduque, c'est annulé, c'est dépassé. Ce qui ne devrait pas, en fin de compte, nous surprendre, si on connaît un petit peu nos Bibles. Parce qu'après tout, qu'est-ce qu'il disait le plus grand conducteur de louanges de tous les temps, le plus grand chanteur-compositeur de l'histoire biblique, David ? Vous vous souvenez ? Tu n'as pas demandé des sacrifices ? Tu ne t'intéresses pas aux holocaustes ? Psaume 40, cité en Hébreux 10. Psaume 51. Si tu avais voulu des sacrifices, je t'en aurais offert. Mais tu ne prends pas plaisir aux holocaustes. Les sacrifices agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et humilié. C'est la même chose que le Nouveau Testament. Jésus-Christ renchérit, je ne veux pas des sacrifices. Je veux de la miséricorde, je veux des vies transformées. Et en fait, c'est le même message chez les prophètes. Eux, ils prennent un petit peu les choses dans l'autre sens. En fait, les prophètes, je pense, doivent nous inciter à une méfiance à l'égard du culte conçu comme rencontre, comme événement public. Qu'est-ce qu'ils disent des sacrifices du peuple dans l'Ancien Testament ? Surtout quand notre vie n'est pas en règle, quand le sacrifice de notre vie n'est pas en marche, qu'est-ce qu'il leur dit ? Vous vous souvenez du début du prophète Ésaïe, chapitre 1 ? Ça arrache. Je cite quelques extraits. Dieu il dit ceci, il dit « Je ne prends aucun plaisir au sang des taureaux, des brebis et des boucs. Qui vous demande de piétiner ainsi mes parvis ? Cessez d'apporter des offrandes illusoires. J'ai horreur de l'encens, des débuts de mois, des sabbats, des convocations, aux réunions. Je déteste vos débuts de mois et vos fêtes. C'est un fardeau qui me pèse. Je suis fatigué de les supporter. Et si c'était ça le verdict de Dieu sur dimanche dernier dans nos cultes? Malachie chapitre 1, c'est la même chose. Fermez vos églises, votre culte m'insupporte. Dieu, vous imaginez, il supplie son peuple de retour de l'exil. Il les supplie de juste tout arrêter, de fermer le temple. Cela lui serait préférable qu'il n'y ait aucun culte, plutôt que de voir un culte conduit, mené par des gens dont les vies ne sont pas en transformation. Lequel de vous fermera les portes pour que vous n'allumiez plus inutilement le feu sur mon autel? Je ne prends aucun plaisir en vous, dit l'Éternel, le Maître de l'univers, et je n'accepte pas les offrandes de votre main. Pourquoi? Pas pour la même raison qu'en Ésaïe, parce que vos vies ne sont pas en règle, parce que vous êtes radins, parce que vous couchez avec la voisine, parce que vous divorcez, parce que vous êtes jaloux, parce que vous gardez rancune, parce que vous idolâtrez votre job, vos enfants, votre ministère. Vous voyez ce que Dieu est en train de dire? On ne se moque pas de lui. Il nous dit très clairement, mais arrêtez de me prendre pour un... Si notre vie n'est pas une vie de sacrifice et d'adoration véritable, en fait, notre culte dominical, loin d'apaiser la colère de Dieu, loin de le rendre propice envers nous, risque au contraire d'attiser et d'enflammer sa colère. Tant qu'on n'est pas intimement convaincu de la valeur et de la gloire suprême de sa personne, ce n'est vraiment pas la peine de sortir les guitares, les bannières, les danses et les vidéoprojecteurs. Ce qui nous en dit déjà long, n'est-ce pas, sur l'objectif véritable, sur la vraie vocation de nos rassemblements le dimanche. Donc venons-en à ce que la Bible dit à propos de ces rencontres. Qu'est-ce que la Bible dit à propos de nos rencontres le dimanche? Réponse, pas grand-chose. Je force un peu le trait, mais... Et en fait, il y a très peu de textes prescriptifs. Très peu de textes qui nous donnent une idée très précise de ce qui doit se passer lorsque les croyants se rassemblent. Il y en a pourtant deux, que vous connaissez, j'imagine. Deux textes parallèles qui se trouvent en Éphésiens et en Colossiens. J'aimerais juste qu'on regarde ensemble ces textes, parce qu'ils contiennent néanmoins des choses assez étonnantes. Donc d'abord Éphésiens 5, 19 à 20. Éphésiens 5, 19 à 20. Mettez votre index en Éphésiens 5, 19 à 20. Puis avec le pouce, prenez Colossiens 3, 16. Éphésiens 5, 19 à 20. Colossiens 3, 16. Je lis d'abord Éphésiens. Entretenez-vous par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels. Chantez et célébrez le Seigneur de tout votre cœur. Rendez toujours grâce pour tout à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Entretenez-vous par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels. Chantez et célébrez le Seigneur de tout votre cœur. Rendez toujours grâce pour tout à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Gardez l'index. Ensuite, Colossiens 3, 16, quelques pages plus tard. Colossiens 3, 16. Que la parole de Christ habite en vous, avec sa richesse. Instruisez-vous et avertissez-vous réciproquement en toute sagesse par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, sous l'inspiration de la grâce. Chantez à Dieu de tout votre cœur. Relisez encore ce texte. Que la parole de Christ habitant-vous avec sa richesse. Comment ? Bah, regardez, instruisez-vous, avertissez-vous réciproquement en toute sagesse par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels sous l'inspiration de la grâce, chantez à Dieu de tout votre cœur. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur ces versets, mais il me semble qu'il y a deux axes qui ressortent très clairement de ces versets, qui abordent la question des rassemblements publics de l'Église. D'abord, la reconnaissance à Dieu. Pas difficile de trouver dans le texte. Reconnaissance, ça ressort clairement. Chanter, célébrer, rendre grâce, c'est une évidence. L'autre axe est beaucoup plus inattendu. Et c'est l'axe de l'édification. Regardez ces verbes qui sont rarement des verbes qu'on met en lien avec notamment le chant lorsque les chrétiens sont rassemblés. Mais regardez les verbes dans ces textes. Entretenez-vous, instruisez-vous, avertissez-vous, faites en sorte que la parole de Christ habite en vous dans toute sa richesse et tout cela à travers le chant. Mais moi, je croyais que le chant, c'est une affaire de... Voilà, c'est un couloir indépendant, il y a Dieu au bout, moi ici, et puis voilà, je lui balance des choses et j'espère en recevoir en retour et je passe un bon moment. Non, l'accent dans le texte, c'est vraiment sur l'édification, sur cette notion horizontale, les uns les autres. Quand était la dernière fois que vous avez été averti parce que vous avez chanté le dimanche matin? Et je pense que notre expérience confirme ces deux axes. On est d'accord que honnêtement, si ce que la Bible dit est vrai, on ne peut pas ne pas chanter. Si on n'a pas envie de crier ce message sur les toits, je pense que quelque part, il y a un problème. Si tout ce que la Bible dit sur l'accomplissement du culte de l'ancienne alliance en Christ est vrai, ben bien sûr qu'on a envie de chanter. Bien sûr que ça change tout. Bien sûr que la joie va déborder de notre cœur. Et ce n'est pas un but en soi, c'est juste une réaction naturelle, une réaction légitime, une réaction adaptée. Et je peux vous dire, il n'y a pas besoin d'attendre dimanche. Moi, je vous fais une petite confidence. Moi, c'est sur le vélo que ça se passe, avec mes enfants. On va à l'école ensemble, 3 jours par semaine. Le matin, il y a une grosse côte à monter. Et on est 3 sur le vélo. Donc ça met déjà l'ambiance, j'ai le grand devant sur le porte-bagages, la petite sur le guidon. Et ça, je peux vous dire, ça, c'est un concert de louanges. Ça, c'est un vrai concert de louanges. Et on s'entraîne tous les jours, et on ne fait pas que des chants de l'école du dimanche, mais de bons vieux cantiques, à 6 strophes, du 18e siècle, bourrés de doctrine et appris par cœur par des enfants de 2 ans et demi et 4 ans. Ils adorent ça. Et vous savez quoi? C'est comme ça qu'ils apprennent leur doctrine. Je ne vous raconte pas le nombre de discussions théologiques qu'on a eues sur le vélo et en rentrant à la maison. Ils me posent des questions sur la Trinité, sur la Christologie, sur la substitution pénale. C'est extraordinaire. J'évangélise mes enfants à travers des chants. À travers des chants solides qui parlent de l'Évangile. Et au passage, ce qui est vrai pour nos enfants est vrai, n'est-ce pas, pour nos églises, pour nos assemblées. 80% de notre doctrine, mes amis, 80% de ce qui tourne dans la tête de ceux qui fréquentent nos églises le dimanche matin, je suis désolé de vous apprendre, mais ce ne sont pas les 3 points de votre exposé magistral du dimanche matin. Non, c'est le cantique de louange qu'on chante en boucle depuis 3 ans. Je vous assure, c'est ça qui tourne dans la tête le mardi matin en allant au boulot dans la voiture. Et si c'est ça notre théologie, je peux vous dire, on a intérêt à ce que ce ne soit pas une théologie molle, sentimentale, un évangile réservé aux enfants, aux femmelettes et aux personnes en détresse sociale. Et ce qui est vrai de nos chants, je pense que ça vaut aussi pour l'ensemble de ce que nous faisons pendant nos rencontres. Reconnaissance et édification, la proclamation et l'enseignement de l'Évangile par le chant, par la Sainte Cène, par le baptême, par la prédication, par la conversation informelle avant et après le culte. Ces choses-là ne constituent pas un culte. Ce sont plutôt autant de moyens qui nous permettent de rendre un culte à Dieu par l'ensemble de notre vie, les 6 jours et demi restants de la semaine. On va passer à la pratique. Quelques mots sur le fond, quelques mots sur la forme. D'abord, le contenu de nos cultes, de nos rassemblements, de nos rencontres, et ensuite, un mot sur la présentation. Je vais essayer d'aller vite, comme ça, vous pouvez me matraquer avec des questions après. D'abord, le fond. Qu'est-ce qu'on doit mettre dans nos rassemblements, dans nos rencontres? Ben, j'ai envie de dire que la réponse, à la lumière de ce qu'on vient de dire, est évidente. Réfléchissez aux instants, aux clés de votre marche avec le Seigneur Jésus. Pensez aux grands tournants de votre vie spirituelle. Qu'est-ce que c'est qui a provoqué les vrais changements dans votre vie? Je ne connais pas, mais je parle pour moi et je suis prêt à parier que ce n'était pas le fait que quelqu'un vous a répété sans cesse des commandements. Je suis prêt à parier que ce n'était pas non plus juste un élan d'émotion. Peut-être que ça a provoqué de l'émotion, je l'espère. Mais ce n'était pas juste une expérience émotionnelle ou sentimentale en soi. Qu'est-ce qui a provoqué les vrais changements dans nos vies? Ben, c'était Christ. C'était ces moments qu'on n'oubliera jamais, où on a été comme jamais auparavant, brisé, terrassé par sa compassion, par sa grâce, par sa miséricorde, par sa bonté imméritée envers nous. Des moments où on a vu juste pendant un instant, où on a été ébloui par sa splendeur, par sa majesté, par sa perfection. C'est ça qui nous a transformés. C'est ça qui nous transformera encore. Et donc, je vous soumets que c'est ça qu'on doit faire le dimanche matin. Nous n'avons rien d'autre à apporter aux gens, si ce n'est Christ, si ce n'est la croix. Et donc, si nous voulons que nos rassemblements dominicaux servent à ce but du culte véritable sous la Nouvelle Alliance, le culte d'une vie réellement transformée en profondeur, il faut absolument et impérativement qu'on ne commence pas par nos traditions, nos habitudes, les attentes, les besoins, les envies des membres de nos églises. Il faut qu'on commence par Dieu. Parce qu'il n'y a que lui qui peut combler nos besoins véritables. Il n'y a que lui qui peut nous satisfaire véritablement. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour nos chants? Premièrement, nos chants, ça veut dire, bon, je vous pose la question, combien des chants que vous avez chantés dimanche dernier parlaient en premier lieu de Dieu? Pas de ce que l'on ressent sur Dieu, pas de ce que l'on a l'intention de faire un jour pour Dieu, pas de l'émotion qu'on a par rapport à Dieu, mais de Dieu lui-même. Si on passe en revue, comme je l'ai fait, quelques-uns de nos chants, et on se pose la question, à la fin de ce chant, qu'est-ce que je sais sur Dieu? La réponse, elle est parfois tragique, et parfois tout simplement hérétique. Est-ce que le sujet dominant dans nos chants, c'est le « je » ou est-ce que c'est le « lui », « il », troisième personne du singulier? Est-ce qu'on est en train de parler de nos sentiments uniquement ou de la vérité qui, elle seule, peut provoquer de vrais changements en termes d'orientation et d'émotion? Et puis un petit mot aussi sur ceux qui mènent le chant. Est-ce qu'eux, ils ont l'impression qu'ils ont le devoir, le poids de faire monter la mayonnaise, de nous amener, de nous faire sortir de la banalité de notre quotidien, du garage ou du sous-sol où on se réunit, pour nous amener au septième ciel? Parce que si tel est le cas, c'est qu'ils sont revenus sous l'ancienne alliance. Si seulement regarder à Dieu, à Christ, à la croix, là, on n'aurait pas juste un petit coup de maillot. On aurait un banquet 3 étoiles. Les prières, les liaisons, la scène, les autres contenus liturgiques. Ça, je vous suggère que c'est souvent une grosse occasion manquée. Combien de lieux-dits, de clichés sortent toutes les semaines dans nos réunions? Combien de propos, des liens, des mots qui devaient avoir, qui sont censés être des exhortations, mais qui finalement banalisent le débat plutôt que de l'élever, qui finalement obscurcissent le propos plutôt que de le clarifier. C'est très facile d'être compliqué. Et c'est très compliqué d'être simple. Alors veillons à ce que l'ensemble de ce que nous disons et ce que nous faisons est vraiment centré sur Dieu, sur sa parole. En fait, les prières, les liens, les présentations de la scène et les moments comme ça sont des moyens formidables pour transmettre l'évangile si on veut s'en servir. Le texte biblique lui-même regorge d'exemples de prières, de bénédictions, d'appels à adorer Dieu, nous présente la scène et le baptême sous plein de facettes différentes pour nous faire réaliser davantage la valeur et la splendeur de l'évangile. Il n'y a pas qu'une seule manière de faire. Alors moi, j'ai un fichier où j'ai répertorié tous les textes que j'ai trouvés dans la Bible pour différents moments liturgiques. Et comme ça, quand c'est le vendredi ou le samedi, on a la tentation de juste faire ce qu'on fait toujours et de revenir au même lieu dit, on sait où regarder. Je vous encourage à faire la même chose, à enrichir. Même les petits détails, même les annonces. Vous avez déjà pensé à ça? Les annonces peuvent être le moyen d'enseigner l'évangile, d'encourager les gens en vue de l'évangile et d'intérêt, même les aspects très pratiques de notre vie à la croix et à une vie transformée. Prédication, ça pourrait être le sujet d'un autre atelier. Et la question paraît peut-être bizarre, mais est-ce que Dieu est au centre de nos prédications? Est-ce qu'on ressort nos prédications avec émerveillement, avec crainte, avec joie, avec une vision plus grande de qui Dieu est? Est-ce qu'on a la conviction que quand on se rassemble pour se mettre sous la parole de Dieu, on n'est pas juste en train d'entendre quelqu'un nous partager comment ce texte m'a parlé, ce que moi j'ai trouvé dans ce texte? Mais est-ce qu'on a conscience du fait que si on croit ce que la Bible dit, en fait, Dieu, il est en train de nous parler? On n'est pas en train d'écouter Jean-Jacques. C'est le Dieu vivant qui s'adresse à nous. Est-ce que les gens ressortent de nos églises, non seulement dans le fond de ce qu'ils ont retenu, mais aussi dans la manière dont cela a été transmis? Est-ce qu'ils retiennent des prédications la personne et l'œuvre et le caractère de Dieu? Un petit mot aussi sur nous-mêmes. Et ça, bon, je viens de le dire en gros, mais les gens, ils ressentent ce qu'on est. Ils ressentent si on est en train de vivre quelque chose ou pas. Ceux qui animent les réunions. Est-ce que ces gens-là respirent à la fois une grande confiance et en même temps une grande humilité? Il est rare qu'une église aille plus loin que ses responsables. Il est rare qu'une église aille plus loin que ses responsables. Si les responsables ne sont pas en train de prier, il ne faut pas s'attendre à ce qu'il y ait une vraie vie de prière dans l'Église. Si les responsables ne sont pas en train de témoigner, il ne faut pas s'attendre à ce que d'autres personnes soient en train de témoigner. Si les responsables n'ont pas une vie de piété personnelle, si les responsables ne luttent pas contre le péché, il ne faut pas s'attendre à ce que les autres personnes soient en train de le faire. Si ceux qui mènent les réunions sont en train de vivre quelque chose, il n'y a pas besoin de mise en scène, d'hystérie, d'artifice. Ça se sent, ça se transmet. Voilà pour le fond. Maintenant, la forme. Brièvement, quatre mots clés. La présentation, la forme, le comment. Clarté, qualité, variété, langage. Clarté. On a tout à apprendre de nos amis les réformateurs. Le problème de leur époque, c'était finalement un petit peu le problème du nôtre, de la nôtre. Le problème, c'était que ce qui se passait dans les églises, c'était totalement inaccessible, incompréhensible pour le citoyen lambda. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ben, ils ont revu tout, ils sont repartis à partir des bases, et ils se sont servis de la langue vulgaire, au sens propre, pas vulgaire, vulgarité, mais la langue populaire, la langue courante pour véhiculer de nouveau, pour présenter de nouveau, sans jargon, les vérités éternelles de l'Évangile. Clarté aussi en termes d'explication, expliquer un minimum ce qu'on est en train de faire. Il ne faut pas prendre des gens pour des idiots, mais est-ce qu'on explique ce qu'on est en train de faire et est-ce qu'on le relie clairement à l'Évangile ? Est-ce qu'on favorise aussi ce qu'un ami à moi appelle des interventions ABC ? Audible, brève et claire. Tout ce que moi, je ne suis pas en train de faire maintenant. Audible, audible pour le coup parce que j'ai un micro, brève et claire. Un mot sur la qualité. Alors, des fois, on se méfie des grands moyens qui sont employés dans certaines églises, notamment outre-Atlantique. On a un petit peu de mépris, un petit peu de suspicion pour ça, et on a souvent raison. Cela étant dit, n'oublions pas que ce qui est mal fait, ce qui est bâclé, ce qui est fait à l'arrache, met les gens tout autant mal à l'aise que la performance, que l'artifice, qu'une mise en scène ostentatoire. Ce qui est mal fait desserre la cause de l'Évangile et met les gens tout autant mal à l'aise que ce qui est, entre guillemets, trop bien fait. Le sérieux dont nous faisons preuve, ou pas, dans la préparation, dans l'animation de ces rencontres, est en fait le reflet de notre attitude envers Dieu et envers son peuple. La spontanéité ne doit en aucun cas être un prétexte pour de l'imprécision ou pour de la désinvolture. Variété. Rien n'immunise contre l'Évangile comme la routine. C'est pour ça d'ailleurs. La variété, j'ai dit que la spontanéité n'est en aucun cas un prétexte pour de l'imprécision ou de la désinvolture. La variété, rien n'immunise contre l'Évangile comme la routine. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a souvent rejeté les liturgies traditionnelles. On a entendu ça toutes les semaines et ça nous a endormis. En fait, ça peut être extraordinaire. Et des fois, ça vaut le coup de regarder, de relire la liturgie de la réforme de l'Église primitive parce que là, c'est extraordinaire. Le problème, c'est que quand on entend la même chose toutes les semaines, on ne l'entend plus, en fait. Et le même principe vaut pour nous. Comme j'ai dit au début, on a tous une liturgie, qu'on le veuille ou pas. Donc, autant l'assumer et réfléchir pour qu'elle soit cohérente, pour qu'elle soit riche et pour qu'elle soit variée. Il ne s'agit pas de réinventer la roue, de risquer l'hérésie en effectuant d'incessants changements sur la forme, même si ça peut aider, mais plutôt une variété de temps, de rythme, d'enseignement qui reflète l'insondable richesse de l'Évangile. Je vais m'arrêter. Le langage, rapidement pour finir. Notre langage peut souvent induire les gens dans l'erreur. On parle souvent de la présence de Dieu. Mes amis, Christ habite en nous par son esprit. On n'a plus besoin d'être amené ou conduit vers la présence de Dieu. On peut se disposer à l'écouter, mais on ne peut pas s'assurer de la présence de Dieu par nos réunions. Deuxièmement, le plaisir de Dieu. On n'a pas à rendre Dieu propice à travers nos réunions. Christ a satisfait pleinement toutes les exigences de la justice de Dieu. Et donc, on ne sera jamais plus ou moins agréable à Dieu en fonction du contenu ou de la forme de nos réunions. Le temple, Puisque Christ est le nouveau temple, puisqu'il est le sacrifice ultime, il n'y a plus de lieu saint. Dieu n'habite pas les bâtiments où on se réunit le dimanche. Et puis un dernier point qui n'est peut-être pas des moindres, le prêtre. Puisque Christ est devenu notre grand prêtre, notre seul intermédiaire auprès de Dieu, on n'a plus besoin d'hommes consacrés pour nous approcher de Dieu. Les gens qui servent dans l'Église, et je pense que la plupart d'entre nous on en fait partie, ils peuvent nous instruire, ils peuvent nous encourager, ils peuvent servir de panneaux indicateurs, mais aucun prédicateur, aucun musicien, aucun pasteur n'est capable réellement de nous rapprocher davantage de Dieu. Et c'est bien parfois aussi de s'en souvenir en tant que responsable notamment.